L'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Michael Landolt, le nouveau directeur du Centre européen du résistant déporté. Il succède à Guillaume Dandelot. Depuis début novembre, il est en place. Alors, archéologue de formation, il intervenait et menait des fouilles avant sa nomination. Donc, c'est un endroit qu'il connaît bien. Michael Landolt, bonjour.
Bonjour.
Alors, le CRD Struthof, au lieu de mémoire, seul camp de concentration sur le sol français. Aujourd'hui, cela vous oblige, au nom des victimes, de la mémoire, de la transmission. C'est quoi votre sentiment ?
Alors aujourd'hui, on va vivre avec les derniers témoins qui sont encore vivants, qui sont centenaires aujourd'hui. On va vivre la disparition de ces derniers témoins. Et il va falloir passer leur message, transmettre leur message à travers leurs témoignages, à travers des expositions, à travers la visite des lieux où ils ont souffert, où ils sont morts. Et c'est là que vraiment on va connaître une transformation. Les témoins ne seront plus là, il va falloir faire sans eux et transmettre tous ces éléments.
Alors vous êtes un homme de terrain, archéologue, ayant fait des recherches, notamment sur les conditions de vie des soldats durant la Première Guerre. Alors sur le site du Struthof, aujourd'hui, il y a encore des éléments à exploiter, à découvrir. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez, sur ce lieu de mémoire, faire des recherches ?
Alors oui, exactement. Alors en France, on est en retard depuis l'archéologie des camps de concentration est toute récente. Ça date des années 2020 à peu près. Dans d'autres pays, en Pologne notamment, hein, Auschwitz, la première fouille archéologique, c'est une vingtaine d'années, 25 ans après les faits, que des archéologues polonais se sont intéressés à ce site. En Allemagne, depuis de très nombreuses années, quand on rénove, quand on restaure, quand on aménage ces sites de mémoire, les archéologues interviennent en amont. Parce que les sols de ces sites recèlent de très nombreux objets liés aux personnes qui ont été enfermées, torturées et qui sont mortes dans ce site. Par exemple, pour le camp du Struthof, avec ma collègue Juliette Branger, qui est étudiante en thèse à l'Université de Strasbourg, on travaille sur la carrière de granit, là où les détenus, les déportés ont travaillé. Ce camp est lié à cette exploitation de granit. D'une main-d'œuvre, les nazis ont amené une main-d'œuvre gratuite, de travail forcé, qui a exploité ce granit pour construire des monuments pour la gloire du Troisième Reich. Donc une carrière où on a peu de témoignages écrits, parce que la carrière a fonctionné surtout au début, 1941, 42, 43, une période où les Français ne sont pas présents. Et la mémoire du Struthof s'est focalisée sur les déportés français pendant longtemps, avec la question de la guerre froide, hein, du rideau de fer. Donc il faut se rappeler qu'une grande partie des détenus venaient d'Europe de l'Est, de Russie, d'Union soviétique, de Pologne, en très grand nombre, et aussi d'Allemagne. Hein, les premiers détenus arrivés en 1941 sont allemands. Et cette mémoire, on ne l'a pas transcrite. Ils ne sont pas intervenus sur le site. C'est surtout les Français, les Néerlandais, les Luxembourgeois qui sont intervenus. Donc on n'a pas d'histoire, de témoignage sur ce qui s'est passé dans cette carrière. Très peu de choses. Et vraiment, l'archéologie vient combler un manque de connaissances sur comment était organisée cette carrière, comment les détenus travaillaient, quelles étaient les conditions. On découvre aussi des traces d'artisanat que ces détenus fabriquaient. Ils fabriquaient des objets en clandestinité, en récupérant des pièces métalliques, en les détournant. Et vraiment, on a tout un pan de la connaissance de l'histoire de ce camp qui réapparaît, que ce soit des traces vestiges, des constructions, des soubassements de bâtiments et matériels, des objets. Parce que le musée actuel, hein, du Struthof, il faut se rappeler que dans les années 70, il y a eu un incendie criminel, hein, par les loups noirs. Et on aura l'occasion, dans ces prochains mois, de reparler de ces loups noirs et des actes antisémites qui ont été commis par ce groupuscule en Alsace. A brûlé de manière intentionnelle le musée dans les années 70. Et donc de très nombreux objets ont disparu dans cet incendie. Et à travers l'archéologie, à travers aussi les dons, hein, que les familles nous transmettent, hein, le passage de mémoire d'objets qui nous sont transmis régulièrement par des dons, on va pouvoir incarner cette déportation, cette mémoire.
Et ces objets-là seront exposés à terme, après avoir été exploités dans toute, j'allais dire, leur dimension historique, au CERD, au Centre européen du résistant déporté.
Alors, dans les projets actuels du CERD, on est en train de restaurer les travaux de restauration de la cuisine, une des dernières baraques qui n'a pas été restaurée dans le camp. Les travaux vont commencer à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et l'objectif, c'est de revoir après la scénographie, la muséographie à l'échelle globale du site. Donc, il y a une étude en cours qui est programmé, là, qui est un programmiste, scénographe, architecte, donc qui travaille avec les équipes du CERD, de l'ONAC et du ministère des Armées, à redéfinir, retravailler le discours, retravailler avec une place plus importante de l'objet. Et effectivement, ces objets pourront trouver une place dans le futur. C'est un manque que les personnes, on essaie un petit peu dans une démarche qualité d'interroger les gens, de leurs sentiments quand ils viennent visiter. Et souvent, ils regrettent le manque d'objets, de traces matérielles de cette déportation.
On en trouve quelques-uns. Au niveau de la chambre à gaz, il y a une vitrine avec des dons qui ont été effectués par des familles de personnes qui sont décédées ici.
Tout à fait. Alors, dans le cadre de cet assassinat des 86, la chambre à gaz a été réouverte récemment, comme vous le savez, je pense.
Après des travaux,
après des travaux qui ont été assez longs, avec des explications, parce que ça manquait d'explications, il n'y avait pas de mise en contexte historique, il n'y avait pas d'incarnation des victimes aussi, hein. On parle de ces victimes, il y a des photos de ces victimes, c'est important. Et on a donc présenté, mes prédécesseurs ont travaillé, donc il y a des vitrines avec quelques objets, dont des objets qui sont liés à certaines de ces victimes.
Et qui ont quitté des dons des familles. Vous parliez des prédécesseurs, vous continuez, vous, forcément, l'œuvre de vos prédécesseurs, Frédéric Nodufour, Guillaume Dandelot, j'en parlais en introduction.
Tout à fait, et Valérie Dreschler, qui était la première à la création du CERD, et puis avant, il y en avait d'autres, avant le CERD. Donc c'est une transmission, hein. C'est des dossiers qui durent sur des nombreuses années. Hein. La cuisine a été initiée par mes prédécesseurs, c'est des travaux sur le temps long. Et tout ça doit continuer. Il y a d'autres projets aussi que je vais lancer, que ceux qui suivront aussi lanceront, bien entendu.
Alors le CERD, le Centre Européen du Résistant Déporté, apport pédagogique qui permet de contextualiser le camp et donc la visite. Selon vous, c'est un passage obligé avant de visiter les baraquements du Struthof ou la chambre à gaz ?
Alors oui. Il faut savoir que le Centre européen du résistant déporté, c'est plus de 225 000 visiteurs cette année 2023. Un record. On avait eu un record avant le Covid, et là, on a vraiment battu les records. Alors, tous les sites historiques, tous les sites culturels de France constatent l'après-Covid et une remontée des visites. Alors, Auschwitz, 1 600 000 l'année dernière. Ils ont atteint 3 millions avant le Covid. On n'est pas sur la même échelle de surface. On n'est pas sur Auschwitz et deux camps qui sont visitables avec des surfaces énormes. Nous, on est sur une dizaine d'hectares, donc c'est beaucoup plus petit. Mais quand même, 225 000, dont la moitié sont des scolaires, sont des jeunes qui viennent découvrir souvent pour la première fois cette histoire. Les enseignants leur préparent ces visites. Hein. C'est souvent un processus pédagogique et historique qui est entamé en classe bien auparavant, avant la visite. Et sur ces à peu près 110 000 visiteurs scolaires, on a une bonne partie, la moitié à peu près, qui sont des visiteurs allemands, des jeunes allemands. Hein. En Allemagne, la visite d'un camp de concentration est obligatoire dans le cadre de la scolarité. En France, la circulaire Born aussi oblige aussi les enseignants, dans le cadre du parcours scolaire des jeunes, d'aller dans un site de mémoire de manière assez large. Ça peut être Verdun, ça peut être le camp des Milles, le camp de Rivesaltes, le mémorial de la Shoah ou le Struthof, bien entendu. Et vraiment, ce qui est important, c'est cette transmission. Dans le contexte actuel qu'on connaît, de racisme, d'antisémitisme, de haine de l'autre, et la place de ce CERD est vraiment très importante pour éduquer la jeunesse. Ce qu'il faut vraiment, c'est que le jeune qui rentre, qui visite ce site, puisse, dans sa vie, penser par lui-même, réfléchir sur sa relation aux autres. Et ça ne doit pas s'inscrire que dans le passé. La déportation, la répression politique, les massacres, ce n'est pas quelque chose du passé. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde, hein, pas la peine de faire un dessin, je pense que tout le monde connaît l'actualité mondiale de tous ces drames que connaissent les peuples dans le monde aujourd'hui. Et vraiment, il faut s'inscrire dans l'actualité à travers ce camp.
Alors justement, est-ce que le discours lors de la visite du camp du Struthof et avec, on va dire, la guerre à Gaza aujourd'hui et cette montée exponentielle de l'antisémitisme, le discours a changé de la part de vos guides? Il y a des réadaptations à faire, le discours en direction de cette jeunesse justement?
Alors depuis la réouverture de la chambre à gaz, déjà il y a tout un discours beaucoup plus important d'explication de l'antisémitisme et de vers où l'antisémitisme peut aller, hein, jusqu'à l'extermination, la recherche pseudo-scientifique dans le cadre de collections anatomiques. Donc tout ça est mieux expliqué. Hein. Il y a une formation aussi des guides qui est beaucoup plus importante. Et la recherche qui a été menée, hein, il y a tout le travail qui a été fait au sein de l'Université de Strasbourg, qui doit être au service de l'histoire et aussi de la pédagogie et retransmis au niveau des visites scolaires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ça prend du temps parce qu'il y a le temps de la recherche et après, il y a le temps de l'appropriation de ces éléments et de la transmission. Donc ça prend un peu de temps. Donc ça, c'est des choses qui évoluent, bien entendu. Par rapport à ces questions-là aussi, le révisionnisme, ça aussi, c'est un aspect important. Donc, on a nos profs référents qui a mené un travail sur le révisionnisme récemment universitaire à Strasbourg, sur les questions aussi du révisionnisme, parce que le Schrutthof a été un lieu du révisionnisme. Hein. On pense à Robert Faurisson, qui a utilisé ce camp dans ses théories abjectes. J'ai évoqué tout à l'heure la question de l'incendie par les loups noirs, oui, de la baraque. Donc, il faut utiliser ces exemples pour montrer la présence encore dans notre temps de ces idéaux à combattre.
Ces lieux, alors chemin des déportés, chambre à gaz, la nécropole, le mémorial, aujourd'hui sont des lieux de vie, la jeunesse vient les visiter. Ce sont toujours des lieux évidemment de mémoire, de recueillement. Mais pour que cette mémoire soit vivante, il faut de la vie, il faut qu'aujourd'hui ça devienne des lieux de vie où il y a quelque chose d'antinomique dans ce que je dis.
Je pense pas. C'est aussi est-ce que les déportés qui ont vécu en 1943, en 44, qui ont vécu dans ces lieux, auraient pu imaginer une Europe unie, des gens qui vivent dans la paix entre guillemets. Hein, l'Ukraine est en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, que ce lieu ne doit pas être un lieu que de pleurs et de regards tristes des choses. Il faut voir. Regardez, aujourd'hui, l'Europe est née dans ces camps. À l'époque de Frédéric Nodufon, il y a une exposition très intéressante dans le cadre du label du patrimoine européen, de tous ces idéaux européens qui sont nés parmi certains de ces déportés, qui ont eu une carrière politique après la guerre et qui sont des pièces importantes de la création de l'Union européenne telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc oui, ces lieux sont des lieux de vie, ne sont pas que des lieux de tristesse. Les derniers déportés qui venaient, on pense à Jean Villeray qui est décédé en fin d'année dernière, on pense à Pierre Rollinet, c'est des gens qui ont eu aussi un espoir, une espérance. Ils ont vécu la solidarité dans les camps et ils ont voulu transmettre ça à la jeunesse.
Il reste qui aujourd'hui pour témoigner de déportés survivants de cette époque-là? Vous disiez il reste quelques centenaires, mais de ce lieu précisément, il en reste?
Alors, des détenus qui ont été enregistrés au camp de concentration de Natzweiler, français, dont on connaît l'existence, hein, qui sont manifestés, qui sont connus de l'UCRD, il y en a trois. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus que trois personnes. Il y a des détenus, des déportés qui ne veulent pas, qui n'ont pas parlé. Hein. Vous connaissez l'histoire de la mémoire de la déportation, beaucoup n'ont pas parlé. Ça a été très tardif, ces témoignages. Donc il y a encore des gens qui n'en parlent pas. Donc régulièrement, on apprend le décès de personnes dont on ne savait pas qu'ils étaient existants. Il n'y a pas eu un travail sur les 52 000, hein, 52 000, les travaux de Robert Stegmann, 52 000 déportés enregistrés à Natzweiler et ses annexes. Tous ne sont pas passés à Natzweiler. C'est à peu près 17 000 qui passent par le camp de Natzweiler et 3 000 vont décéder dans le camp. N'oublions pas que c'est un camp de déportés de l'Est, hein, 40% sont polonais, et donc on a en Pologne des survivants de manière plus importante que les Français, logiquement, hein, si on voit d'un point de vue proportion. Et ce travail de mémoire des détenus polonais, des détenus soviétiques, des détenus qui sont aujourd'hui biélorusses, ukrainiens, russes, n'a jamais été fait, ou peu fait. Là, récemment, on a appris la publication d'un livre en Slovénie, d'un déporté slovène qu'on ignorait encore l'existence, qui est venu au camp principal et qui est venu aussi à Sainte-Marie-aux-Mines, au camp annexe. Donc son livre est sorti il y a un mois en Slovène. Donc c'est quelqu'un dont on ignorait encore l'existence. On n'a pas eu de travail de vérification des 52 000, lesquels, oui, sont encore vivants aujourd'hui. C'est difficile à dire. En tout cas, proportionnellement, ils ont plutôt la centaine d'années. Ils sont plus nombreux. Mais investi à venir au camp, on n'en a plus qu'un qui vient régulièrement, qui habite à Dijon, qu'on remercie aussi pour son travail de mémoire, M. Mosson, Demain, une classe, des plusieurs classes du secteur de Dijon vont venir, ont été préparées par lui et par son fils, qui s'investissent encore beaucoup pour la mémoire de la déportation.
Les derniers survivants. On va parler maintenant des projets et comment ça se passe. Alors, vous le disiez, la passation d'un directeur à l'autre, vous continuez les projets qui ont été mis en place. Vous apportez, vous, votre vision des choses. Vous pouvez être force de proposition dans une direction à prendre pour le CERD.
Bien sûr. Alors déjà, il ne faut pas oublier que le CERD, c'est un établissement qui n'est pas indépendant, qui dépend de l'Office national des combattants et victimes de guerre, donc l'ONAC-VG. Donc on est un haut lieu, vous l'avez bien dit en introduction, un haut lieu de la mémoire nationale. Ils sont 10 aujourd'hui. Un 10e bis, plutôt 11e, qui va être en fait rattaché au camp de Natzweiler prochainement. C'est le camp de Thiel, qui est la mémoire de la Shoah, puisque sur les 862 détenus, 800 sont juifs. Et venait donc d'Auschwitz et d'un commando de Neuengamme qui s'appelle Fallersleben, qui se trouve près de Longwy, hein, en Meurthe-et-Moselle. Et récemment, la secrétaire d'État a annoncé que ce site allait devenir un haut lieu. Donc là, c'est un site sur lequel je travaille scientifiquement avec ma collègue Juliette Branger. Depuis quelques années, on a réalisé des prospections archéologiques. Et donc, c'est un site qu'on va valoriser dans les années à venir, hein. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être valorisé avec la mémoire de ces Juifs, dont 40% avaient moins de 19 ans. Ça aussi, il faut se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de jeunes, de très jeunes, qui ont été, donc, qui venaient de Hongrie, hein, qui avaient échappé à l'extermination dans les camps de l'Est et qui ont été évacués grâce à l'arrivée des Russes. Hein, ils ont évacué les camps de l'Est. Ils sont arrivés dans l'industrie de guerre nazie à l'ouest, et notamment à Thiel. Hein. C'est un camp qui dure quelques mois. Hein. C'est de juin à septembre 1944. C'est très court pour fabriquer des V1. Alors, vous parliez de projets, la touche personnelle que je peux avoir. Donc, archéologue, les objets, hein, les traces matérielles, là, j'en ai parlé. Donc, par rapport aux objets, ma sensibilité sur les objets qui seront valorisés, dans des expos peut-être aussi à venir, par rapport à des dons qu'on a reçus, par rapport à des thématiques. Hein. Il y a une thématique, on accueille une stagiaire, Anna, en ce moment, depuis quelques jours, de l'Université de Strasbourg, qui travaille sur les tenues de déportés. Quand vous pensez à déportation, on pense tous à tenue rayée.
Exact.
C'est un petit peu l'image d'Épinal, entre guillemets, on pense... un déporté, il est en tenue rayée. Ben non, c'est pas toujours le cas, et c'est même très rarement le cas plutôt, puisqu'au Schrutthof, les déportés sont en grande majorité habillés de tenues civiles. Et c'est les détenus qui sortent du camp, qui sont dans des camps annexes, qui portent les tenues rayées. Problème d'approvisionnement, vous vous doutez, hein, la priorité c'est pas d'approvisionner des camps, c'est plutôt d'approvisionner l'armée allemande. Donc c'est des questions économiques, hein, financières. Et puis aussi c'est pour reconnaître les détenus à l'extérieur, quand ils travaillent dans une usine avec des civils, en rayés, on les reconnaît. Donc on est en train de travailler, on travaille sur nos collections. On a eu quelques dons. S'il y a des personnes qui veulent faire des dons, n'hésitez pas, je fais un petit appel pour pérenniser ces objets qui ne rentrent pas dans les... Il y a des émotions très régulières dans le cas de ventes qui sont faites dans des salles de vente d'objets de la déportation, d'objets de la Shoah, qui scandalisent les victimes, qui scandalisent les familles de victimes. Donc je vous invite à donner à des musées, à un public, ce type d'objets pour qu'ils soient pérennisés, qu'ils soient valorisés. Donc, on a une cinquantaine de ces tenues. On est en train de faire une étude un petit peu sur les réparations, les types de tissus, les provenances, les types de marquages sur ces questions-là. Et on aimerait bien peut-être à terme faire un jour une exposition, pourquoi pas. En tout cas, déjà lancer un travail de recherche pour ensuite le valoriser. Alors, en autre projet, on a des projets d'exposition d'art contemporain qui avaient été lancés avant mon arrivée. Hein. Une expo, la prochaine, qui arrive au mois d'avril, Nicolas Dauban, un artiste contemporain qui va créer plusieurs œuvres qui vont être présentées au Schrutthof, et les FRAC, donc de Célesta, Reims et Metz, du Grand Est, présenteront autour de ces grandes œuvres d'art des créations qui permettent de parler de la déportation, qui vont être présentées, donc vraiment une expo d'art contemporain. Ensuite, à la rentrée, donc septembre, octobre, une exposition de Michael Kenna, un photographe américain qui a photographié les camps de toute l'Europe et qui a légué sa collection à la France il y a quelques années. Donc on présentera la série de photos sur le Shrouthof. Donc c'est 20 ans ou 30 ans de photographie en noir et blanc de petit format qu'on présentera. Au niveau événement, donc la restauration de la cuisine qui va commencer, hein, je vous l'ai dit. Les fouilles archéologiques à la carrière qui continuent hein, l'été, hein, c'est toujours au mois d'août, avec soit direction de Juliette Branger, avec Porte Ouverte hein, aussi, où il y a de très nombreux visiteurs qui viennent découvrir cette histoire oubliée de la carrière. On a les 80 ans, cette année, les 80 ans de la libération de la France, d'une partie, puisqu'en Alsace, de nombreux secteurs étaient encore annexés, occupés, en 1945, hein, on pense à Colmar ou le nord de l'Alsace. En tout cas, les 80 ans, une cérémonie nationale qui se réalisera le 25 novembre 2024. On célébrera donc les 80 ans de la découverte du camp par l'armée américaine. Premier camp que les Américains de concentration découvrent sans détenus, hein, puisque le camp avait été évacué. Hein, c'est une découverte. Il ne restait que quelques 8 ou 9 détenus qui étaient là pour l'entretien, qui s'étaient échappés quelques jours auparavant. On commémorera aussi l'exécution, le massacre même du réseau Alliance et du réseau Alsace-Vosges la nuit du 1er au 2 septembre 1944. Hein, c'est plus de 140 personnes qui ont été assassinées juste avant l'évacuation du camp. Des résistants qui ont été acheminés pour servir de lieu d'exécution. Donc là, une cérémonie qui est en train de s'organiser avec les descendants et avec, en partenariat avec aussi le mémorial d'Alsace-Moselle, avec lequel on a créé un partenariat. On va faire des expositions ensemble, des projets ensemble. On a deux outils qui présentent l'histoire mouvementée de l'Alsace-Moselle qui ne sont pas en concurrence, qui sont en complément. Hein, vraiment, l'un et l'autre se complètent vraiment. Et souvent, les scolaires visitent l'un le matin et l'autre l'après-midi. Donc là, ça permet de créer vraiment des projets concrets. On a aussi la chambre à gaz terminée. Hein, il manque, ça n'aura pas échappé à certains, une pièce qui n'a pas été terminée. La pièce qui va être dédiée aux victimes. Mais pas qu'aux 86 victimes du
docteur Hirt,
mais aussi aux autres victimes de la chambre à gaz. Voilà. Ça commence. On a la première. On est en phase d'étude. Il y a un scénographe qui travaille dessus et puis tout un travail qui va être mis en place pour qu'on voit ces victimes, qu'ils aient une place, une zone de recueillement qui est nécessaire un petit peu après avoir la zone historique, une zone en mémoire de ces hommes et de ces femmes qui viennent d'une grande partie de l'Europe. L'accueil du public aussi qui doit être amélioré dans le cadre de l'étude, le problème du parking, le problème de la restauration, des problèmes aussi de circuit, toutes ces choses-là sont en étude avec un cabinet qui nous aide à travailler sur ces questions et des choses qui vont prendre du temps, c'est pas en quelques mois que tout ça va évoluer, mais en tout cas on travaille sur ces aspects, et les aspects scientifiques aussi, très importants, la recherche, le lien avec l'Université de Strasbourg, à travers la commission hein, qui a rendu son rapport, et l'Université de Strasbourg travaille à une pérennisation de ces questions à l'échelle de l'université, donc là on va être aussi un partenaire. Les questions d'étudiants qui font des recherches sur des sujets, hein, ça aussi on encourage ces questions-là. Et puis dans le cadre d'expositions qu'on pourra valoriser ces éléments. Alors, je vous ai parlé des tenues de déportés, moi je pense aussi aux animaux dans le camp, une question, ça pourrait être une exposition, hein. Il y a les poux, les puces, les chiens, ce qu'ils mangeaient. On pourrait travailler aussi sur les déportés alsaciens mosellans, parce que le Shrouthof c'est aussi...
En particulier, oui,
en
bien
particulier,
sûr.
Il y a plus de 800 mosellans, plus de 300 alsaciens. On a même un déporté qui est né à Natzwiller, qui a été détenu au Shrouthof, donc ça c'est extrêmement intéressant. C'est l'histoire locale aussi, c'est pas que l'histoire de toute l'Europe, c'est aussi l'histoire de la vallée de la Bruche, l'histoire de l'Alsace, l'histoire de l'Alsace-Moselle, et parler aussi de l'Est. Je vous ai dit l'Est, centre européen du résistant déporté, c'est pas que centre français du résistant déporté, il faut aussi s'ouvrir vers l'Est, vers la Pologne, vers l'Union soviétique de l'époque, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie actuelle, pour voir un petit peu qui étaient ces hommes de l'Est. Ils ont sûrement écrit des témoignages. Quand on fait des petites recherches dans les bibliothèques nationales de ces pays, on tombe sur des livres dans ces langues. Alors, naturellement, c'est des langues dont on n'a pas l'habitude, donc forcément, pour un Français qui a appris l'anglais ou un petit peu l'allemand, c'est un peu difficile, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on veut développer l'aspect européen. Et pour finir, le réseau, et je parle à mes collègues allemands du VGKN, le réseau des camps annexes du Schruthof, enfin, je vous rappelle, 70 camps annexes des deux côtés du Rhin, que ce soit à Metz, Köhlö, à Urbaise, Sainte-Marie-aux-Mines, côté français actuel, hein, ou dans le Bas-de-Württemberg, la Hesse ou le Palatinat, c'est 70 sites. Côté allemand, ils sont fédérés au sein d'une fédération. Et donc là, on a des liens très étroits, des réunions régulières, et tout ça fera naître des projets d'expos, de colloques à venir.
Qu'on ne manquera pas, évidemment, de diffuser, de médiatiser pour nos éditeurs. Michael Landolt, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions, d'être passé nous voir. Donc, on vous souhaite plein de projets à venir et le plus de projets possibles à développer encore, parce qu'on l'entend, hein, c'est important aujourd'hui, et cette mémoire, et de passer cette mémoire, parce qu'il n'y a plus beaucoup de déportés qui peuvent témoigner. Et donc aujourd'hui, c'est votre mission à vous. C'est comme ça que vous le prenez ?
Exactement.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.